Atene, dove vivono les hommes, les femmes, les chômeurs, les travailleurs précaires, les exploités, les étudiants, les jeunes, contre ces conditions qui reproduisent les maltraitances. Seulement en s'unissant pour imposer, pour faire valoir ses propres besoins, on pourra venir à bout d'une logique féroce, d'une logique de la rationalité du capital. La globalisation, le néolibéralisme, c'est la forme actuelle et en perspective de la domination du système du capital, de la rationalité économique et de la rationalité de l'État. Alors nous, on la considère ni fatale, pas du tout. On ne la considère pas fatale. Il y a une petite métaphore qu'on pourrait dire aux enfants. Le vampire, il semble très fort, mais il ne peut pas se passer des gens qui vampirisent. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampires.
Moi, je vous propose de vous retirer maintenant, monsieur la police. Vous voulez bien vous écarter et vous mettre sur le côté. S'il vous plaît, nous allons rentrer, puisque personne ne nous en empêche. Je propose que paisiblement nous entrions. Et vous retirez sur le côté, gentiment.
Monsieur,
comme ça, il n'y aura pas de violence,
en tout cas
pas
de inconvénient. J'attends les ordres.
Allez, bonsoir, c'est Grégoire, chaque semaine chez les Goligarigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et Radio Primitive sur Reims. C'est Grégoire, une parole anarchiste communiste. Allez, bonsoir. On vous avait dit la semaine dernière qu'on allait aborder ce soir l'intervention impérialiste de la France au Mali. Eh bien, ça va être fait puisque on a au téléphone Sylvie qui connaît assez bien, voire assez bien, oui, on peut dire, le Mali. Alors, Sylvie, tu m'entends ?
Oui.
Oui. Alors, est-ce que tu peux déjà nous donner, nous dresser, alors ça peut être long, je sais pas, nous dresser le tableau un petit peu de ce pays, le Mali, qu'est-ce qu'il en est exactement ?
Le tableau depuis quand ?
Ah, depuis, quelques années, quoi. C'est... Bien sûr, c'est l'ancienne colonie française.
Indépendante en 1960, comme tout le monde.
Oui.
Qui a eu dans un premier temps un chef d'État qui était un leader indépendantiste.
Oui.
Modibo Keïta. Qui a voulu avoir une politique indépendante et notamment qui a voulu ne pas participer au franc CFA.
Oui, ça c'est oui, je m'en souviens.
Ça lui a été fatal. Il y a eu un coup d'État de Moussa Traoré. Lui, il est mort, Modibo Keïta, il est mort en prison. Donc ensuite ils ont eu donc une dictature, je me rappelle plus, mais le coup d'État ça devait être en 68, je crois. Ils ont vécu sous dictature jusqu'en 91. En 91, il y a eu une révolution. Alors c'est un peu compliqué, il y a eu une révolution, guerre civile, et il y a eu un gouvernement de transition, c'est-à-dire que Moussa Traoré a été renversé par son aide de camp, ATT, Amadou Toumani Touré, qui a proposé de remettre le pouvoir aux civils. Il y a eu donc une période de transition qui a permis quand même de rétablir plus ou moins la paix civile, parce que c'était vraiment une situation de guerre civile. Et il a effectivement remis le pouvoir aux civils, et donc ils ont pris une constitution assez démocratique. Un président a un mandat de 4 ans, il ne peut se représenter qu'une fois. Et donc le premier président, ça a été Alpha Omar Konaré, qui a été président 2 fois de suite. Et ensuite, c'est Amadou Toumani Touré, donc le même qui s'est présenté comme président de la République. Et il veut terminer son deuxième mandat quand il y a eu le coup d'État. Le coup d'État a eu lieu un mois avant les élections présidentielles, auxquelles en principe il ne se représentait pas.
D'accord.
Donc ça c'est un truc vraiment succinct. Le Mali, alors c'est un peu compliqué parce que c'est difficile de montrer une carte à la radio.
Oui.
C'est un peu coupé en deux, le Mali. C'est-à-dire qu'il y a une partie sud, une bande assez étroite, et ensuite le nord. Et la partie nord est beaucoup plus grande que la partie sud. Ça fait comme une espèce de... comme une théière ou une cafetière, sauf que la Anse serait plus grande que la théière.
Ah, bien sûr, ces frontières ont été données par...
les frontières, c'est simple, à la règle.
À la règle, oui,
c'est ça. Elles sont droites à travers le désert, sauf à de très rares endroits, et donc avec une frontière avec l'Algérie, avec la Mauritanie, avec le Niger... Ça, c'est dans la zone sahélienne. Et sinon, avec le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso.
Ok.
Et le Mali a toujours, dans l'histoire africaine, qui existait quand même avant que les Français débarquent, ça a toujours été une position centrale parce que ils sont donc il y a le fleuve Sénégal passe sur une partie de leur territoire et surtout ils sont traversés par le fleuve Niger, donc c'était vraiment une zone d'échange entre le Sahara et l'Afrique tropicale, quoi.
Oui.
Ça a toujours été un centre commercial important.
Alors, qui dit zone comme tu le décris dit contrebande, etc.
Oui, évidemment. Et ça, plutôt dans le désert. Il y a beaucoup de peuples, évidemment, au Mali. Il n'y a pas de peuple majoritaire. Et ils n'ont pas voulu qu'un des peuples s'approprie le pouvoir. C'est pour ça qu'ils ont toujours comme langue officielle le français.
Ok. Oui, et une question, Sylvie. Si je ne me trompe, le nord, qui est la partie la plus grande du Mali,
oui.
Et la
c'est
moins,
aussi la moins peuplée.
Oui, c'est ça. Et le sud, qui est la plus peuplée, c'est, donc c'est celle qui, économiquement, serait la plus riche, entre guillemets, si on peut parler de richesse au Mali.
Alors, du point de vue des richesses, je ne sais pas, parce que les richesses minières sont plutôt au nord.
Oui.
Ça dépend lesquelles. Par contre, du point de vue de la pauvreté de la population, on peut dire que la population du Nord est encore plus pauvre que la population du Sud. Parler de richesse pour la population du Sud, ça me semble un peu compliqué. Mais le Nord, oui, est très pauvre. Enfin, c'est le désert. Le Mali, c'est encore un pays rural. L'agriculture. Donc le désert, ça n'a jamais été terrible pour les agriculteurs.
Oui, tout à fait.
Alors, je ne sais pas trop par où commencer et ce que les gens savent ou ne savent pas sur le Mali.
Oui, enfin, je crois que tu peux quand même nous dire un peu ce qui s'est passé ces dernières semaines, voire ces derniers mois, pour nous dire un peu qu'est-ce qui fait qu'il y a ce problème actuel de guerre. La France est en guerre au Mali.
Ouais. Alors, si dans le Nord... une partie de la population du Nord sont donc les Touaregs. Les Touaregs, c'est des nomades, donc en fait, ils sont sur une bande qui s'étale sur le Mali, la Mauritanie, l'Algérie, le Niger, la Libye.
Ouais.
Et évidemment que les Touaregs ont toujours posé un problème parce qu'ils se baladent. C'est des nomades. Donc, alors, ils font pas que se promener. Ils font du commerce, ou plus exactement du trafic, et il y a une histoire un peu lourde dans la région, c'est-à-dire que un des commerces lucratifs traditionnels, c'était le commerce d'esclaves, naturellement.
Oui.
Avec l'esclavage n'a été aboli en Mauritanie qu'en 1981, quand même.
D'accord.
Dans la loi, dans la réalité, bien sûr qu'il n'est pas aboli. Donc, il y a régulièrement eu des révoltes Touareg, pas que au Mali. Hein.
Oui, pas qu'au Mali, au Niger.
Au Niger, en Algérie, etc. Ça s'est toujours un peu soldé de la même façon, c'est qu'il y avait des opérations militaires Touareg, et on négociait, et on versait de l'argent aux chefs des opérations militaires, qui étaient des chefs de clan.
Oui.
Ce qui fait qu'on a le paradoxe d'une région qui n'est pas du tout développée économiquement, à un point que qu'on a du mal à imaginer d'ici. C'est-à-dire que sous-développée par rapport au Mali, comment vous dire ?
Oui, on se doute que...
C'est très très sous-développé, et en même temps les Maliens n'arrêtent pas de se plaindre qu'il y a plein de fric qui est envoyé au nord, parce qu'en fait, ce fric est approprié par les chefs de clan, qui assoient leur pouvoir. Et évidemment, réutilisé, réinvesti dans les trafics. Donc ça, c'est très ancien. Hein. C'est à peu près depuis l'indépendance du Mali, pas sous Modibo Keïta, mais depuis Moussa Traoré. Ce qui s'est rajouté par là-dessus, anciennement mais plus récemment, c'est la guerre civile en Algérie. C'est-à-dire que quand l'Algérie a éliminé ces terroristes, on va dire, en fait, elle les a repoussés de l'autre côté de la frontière. Et donc, les anciens du GSPC se sont installés dans le Sahara, de ce côté-ci de la frontière, ACMI, la fameuse ACMI. De fait, parce que c'est la frontière avec l'Algérie, je ne sais plus combien de centaines de kilomètres, ça se compte en milliers de kilomètres. Hein, dans
14 000. C'est énorme. Hein.
Oui, c'est énorme. Et l'armée algérienne est très puissante. Enfin, à côté de l'armée française, n'exagérons rien quand même. Et, bon, l'armée algérienne a peut-être les moyens de contrôler un peu la frontière, mais l'armée malienne...
Encore moins.
Pas du tout. Pas du tout. Je veux dire, 14 000 km de frontière, c'est immense. Puis surtout qu'après, il y a toute la frontière avec la Mauritanie.
Oui.
Aussi, qui est presque aussi grande. Donc, voilà, c'est des frontières qui sont pas contrôlées. Donc, ACMI s'est installé donc dans le nord du pays, mais ACMI n'est pas du tout d'origine malienne. Hein.
Oui, d'origine algérienne.
Voilà. Et il y a ceux qui ont rejoint ACMI, il y a des Maliens dans le tas, mais c'est pas spécialement des Maliens.
Disons que les chefs sont algériens. Ça, après, effectivement, il peut y avoir...
Oui, d'ACMI, oui, de Moudjahou, qui est une scission d'ACMI, je suis moins sûre.
Non, Moudjahou, effectivement, c'est encore particulier, mais en tous les cas...
Mais Moudjahou vient d'ACMI.
Oui. En tous les cas, les chefs sont algériens, et depuis longtemps, en plus, sont des personnalités assez connues, et qui sont, se sont enrichis petit à petit du trafic et du commerce, ce qui leur permet de disposer à la fois de relations, parce que ça fait longtemps qu'ils sont là, mais ils sont aussi capables d'acheter des armes et d'avoir de la puissance et de se déplacer, tout ça.
Oui, oui, ils sont en tous les cas mieux armés que les Tamaniens. Hein.
C'est clair.
Et ils ont acheté... Ils se sont fait des relations, ils ont pu acheter des relations. Ils ont évidemment aussi acheté du monde au sein de l'État malien. Bien sûr. Aussi. Alors, donc il y a ce qui fait qu'on se trouve avec dans la même zone, donc les islamistes plutôt venus d'Algérie et les Touaregs. Ce qui s'est passé ensuite, l'accélérateur des choses, ça a été la Libye.
Oui.
L'intervention française en Libye. Faut savoir que la Libye avait un certain poids économique au Mali. Pour la Libye, je suis pas sûre que le Mali représentait énormément, mais pour le Mali, la Libye représentait beaucoup. La famille de Kadhafi possédait pas mal d'hôtels et tout ça dans Bamako. Et il y avait beaucoup d'émigrés maliens en Libye.
Oui, en particulier dans les mines de pétrole, dans les trucs de pétrole.
Alors dans les mines et tout ça, mais aussi comme mercenaires et dans l'armée
de Kadhafi.
Mais là, c'était plutôt des Touaregs. Donc maliens, mais sans doute aussi libyens, et puis peut-être nigériens, et puis peut-être algériens, et puis peut-être mauritaniens, le tout la même personne. Hein.
Oui, c'est ça. C'est...
Quand il y a eu l'intervention française en Libye, ces mercenaires se sont repliés avec armes et bagages. Plus, évidemment, ils ont récupéré ou racheté les armes distribuées par la France aux rebelles.
Ouais.
Et donc, ils sont repassés au Mali. Ils sont repassés au Mali en étant mieux équipés et mieux, pas plus nombreux, mais mieux équipés et mieux armés que l'armée malienne. Alors il a été beaucoup, c'est une des raisons du coup d'État, beaucoup reproché au président malien, ATT, de les avoir laissés rentrer. Après, je ne sais pas très bien s'il avait les moyens de les empêcher de rentrer. Hein. Mmh. En même temps qu'ils sont rentrés, il y a eu, ou juste après qu'ils soient rentrés, des attaques du MNLA, Mouvement National de Libération de l'Azawad, qui est un mouvement qui se présente comme représentant la revendication d'indépendance des Touaregs du Mali.
Oui.
Je dis qu'ils se présentent parce que je ne sais pas quelle est la réalité de leur implantation sur le terrain, vous comprendrez pourquoi par la suite. Ils ont toujours eu une certaine popularité en Occident, du côté de la gauche, je veux dire, parce qu'ils tiennent un discours démocratique, etc. En même temps, c'est un mouvement Touareg, et le nord du Mali n'est pas habité que par des Touaregs, et la zone qu'ils revendiquent, au nom des Touaregs, n'est pas habitée que par des Touaregs. Hein. Comment dire, les Touaregs sont dans une situation... Les Touaregs qui ne règnent pas sur les trafics, la partie des Touaregs qui ne règnent pas sur les trafics sont dans une situation de grande pauvreté, mais ils ont un passé d'esclavagisme vis-à-vis des populations qui sont autour, et de razzia. Mmh. Donc, le MNLA a profité de tout ça pour s'attaquer aux villes du Nord, mais en s'alliant avec Ansardine. Alors, Ansardine, c'est une scission du MNLA. En fait, c'est que je me rappelle jamais du nom.
Du GSPC.
Non, du MNLA.
MNLA. Ouais.
Je me rappelle jamais le nom de son chef. Il faudrait que je le retrouve. Ziad Al-Kli ou un nom comme ça. Et en fait, il avait été écarté de la direction du MNLA. Il fait toujours partie d'ailleurs de ces chefs de clan qui font des opérations armées et puis on leur donne du fric et ils arrêtent. Et puis quand le fric est fini, ils refont des opérations armées, on leur donne du fric et ils arrêtent. Il a ensuite été nommé consul en Arabie Saoudite par le gouvernement malien, par le président ATT. Il en est revenu islamiste et en faisant une alliance avec ACMI. Donc... extrémiste d'extrême droite, quoi.
Mmh.
Mais il a un certain poids chez les Touaregs, lui, parce que lui, les Touaregs, c'est un chef de clan important. Et donc, le MNLA a attaqué les villes en alliance avec Ansardine, qui était lui-même allié avec ACMI.
Mmh.
Lors de la prise des villes, à côté de Tessalit, il y a eu un massacre important qui compte pour la suite. Il y a eu une centaine de soldats maliens qui ont été égorgés. Ça va compter comme événement pour la suite. Si on prend après... Donc ça a été... Les premières attaques, elles ont commencé en janvier 2012. De janvier à juin 2012, ça a été l'élimination progressive du MNLA. Il est arrivé au MNLA, ce qui arrive à tous ceux qui sont assez fous pour s'allier avec une extrême droite armée. Toutes les villes qu'ils ont prises, ensuite il y a eu guerre contre eux, et elles sont maintenant, enfin, sauf que là ils sont en train de déguerpir un peu, mais elles sont tombées aux mains d'ACMI, Ansardine et Moudjahou.
Hmm. Moudjahou, d'où ça sort? Ça du Nigeria, je crois.
Alors Moudjahou, ça sort de l'ACMI.
D'accord.
C'est ces mouvements pour la djihad en Afrique de l'Ouest. Ou un truc comme ça. Mais c'est ça, mouvement pour le djihad en Afrique de l'Ouest. Donc, toutes les villes, au départ, prises en alliance avec le MNLA en a été éliminé, et sont aux mains des islamistes. C'est pour ça qu'on peut se demander quelle était la réalité du MNLA, en fait.
Ouais.
Ça s'est passé, en gros, de janvier à juin, dans le Nord. Et depuis, il y a eu des tractations... en Algérie, au Burkina Faso, parce qu'évidemment, chaque pays dans la région utilise les Touaregs pour jouer son propre jeu. Et donc, il y a eu des discussions au Burkina Faso et en Algérie entre le MNLA et Ansardine pour retrouver un accord entre eux. Ce qui s'est passé pendant ce temps dans le sud du Mali. Donc les attaques au nord, ça démarre en janvier. Et donc il y a eu ce massacre-là dont je vous ai parlé en janvier. Dans le sud du Mali, pendant ce temps, en mars, il y a eu un coup d'État. En fait, l'origine de ce coup d'État vient des militaires qui sont cantonnés à la caserne de Kati, qui est à côté de Bamako, donc complètement au sud du pays. L'origine du coup d'État, en fait, c'est une mutinerie liée à la tuerie à côté de Tessalit, parce que le pouvoir malien a longtemps étouffé l'affaire, et ils accusaient ATT de complicité, et notamment le gouvernement malien est tellement corrompu qu'ils accusaient que les armes avec lesquelles ils avaient été égorgés étaient arrivées là-bas par le biais de la corruption. Mmh. Et donc, c'est de cette mutinerie qu'est sorti ce coup d'État, qui n'est pas un coup d'État d'officier, c'est un coup d'État de sous-officier. En mars, bizarre, puisque un mois avant les présidentielles,
oui, bizarre.
Je ne sais pas qui est derrière le coup d'État, ou s'ils ont fait le coup d'État par hasard, c'est-à-dire que la mutinerie a dégénéré en coup d'État, si vous voyez ce que je veux dire.
Bien sûr.
Qui a été soutenu par certains partis de gauche.
Quand tu dis certains partis de gauche, lesquels?
Oula, vache. Je ne saurais plus te dire exactement, je risque d'en oublier ou d'en rajouter. Je sais quel parti ça dit.
Il faut dire qu'au Mali, 128 partis politiques.
Oui, il y en a beaucoup. Et ils changent de nom de temps en temps. Il y a eu un regroupement de petits partis qui les ont soutenus.
D'accord.
Et je n'y connais pas trop dans les partis politiques maliens. Le grand thème de départ, c'était contre la... Mais par contre, ils ont eu le soutien de ces petits partis, mais on ne peut pas dire qu'ils ont eu le soutien de la population, globalement. Du tout. Pour la population, très massivement, l'ensemble des politiciens sont considérés comme des gens corrompus, en qui on ne peut avoir aucune confiance. Tous les politiciens, et en gros les militaires aussi. Dans un premier temps, ils ont reproché qu'on ne leur donnait pas d'armes pour aller se battre dans le nord, et ils réclamaient des armes. Bon, comme il y a eu le coup d'État, aussi c'est qu'il y a eu un embargo, forcément. Donc, dans un premier temps, protester pour avoir des armes. Donc, pendant ce temps, ils restaient au sud, ils ne montaient surtout pas au nord. Il faut dire aussi qu'une partie des militaires, c'est un bon boulot. Surtout avec la corruption, ça rapporte bien. Donc, tous ceux qui ont des relations haut placées dans l'État ont casé leurs fils dans l'armée.
Ouais.
Donc, je ne sais pas quelle partie de l'armée, mais une partie de l'armée, c'est ça quand même. Donc ils ont réclamé des armes, et puis dans un deuxième temps, depuis 3 mois à peu près, les armes ont commencé à arriver, mais ils sont pas montés se battre dans le nord, c'est-à-dire qu'ils ont centré leur truc contre l'intervention de la CEDEAO, contre l'intervention des puissances étrangères, mais sans pour autant monter se battre dans le nord, et sans pour autant armer la population ou organiser la population pour qu'elle puisse résister face au nord. Ce qui a déclenché l'intervention française, je ne sais pas si c'était le prétexte, mais le moment où l'intervention française a eu lieu, c'est que des colonnes de djihadistes partaient du nord pour prendre en étau, à se diriger vers Sévaré, de l'est et de l'ouest, et du nord-est et du nord-ouest. Alors Sévaré, c'est un peu, le Mali est vraiment géographiquement coupé en deux si on prend sa forme, et Sévaré, c'est sur la ligne qui coupe en deux, c'est le principal aéroport, le principal lieu d'infrastructure avant d'aller jusqu'à Bamako. C'est à 600 km de Bamako, ou 700 km de Bamako, mais c'est le principal truc avant, c'est à proximité du fleuve Niger. Il y a très peu de ponts au Mali. Et là, ils étaient des deux côtés du fleuve. Et donc, en fait, quand on a annoncé qu'ils s'approchaient de Sévaré, quoi, qu'ils étaient à Kona et à Léré, toute la population au Mali avait peur.
Mmh.
Parce qu'ils faisaient aucune confiance à leur armée, et pour eux, le lendemain ou en quelques jours, ils étaient à Bamako.
Mmh.
Et donc l'armée française est intervenue avant la jonction des deux colonnes, en fait.
D'accord. Est-ce que tu peux, parce que bon, tu nous as décrit un peu le terrain militaire, est-ce que tu peux nous décrire un peu déjà, nous rappeler les intérêts de la France au Mali, puisque là, la France joue le rôle de gendarme de l'Afrique, comme d'habitude, hein. Il y a des accords franco-maliens, comme il y a des accords franco-tchadiens, comme il y a des accords, etc., etc., la fameuse France-Afrique. Est-ce que tu peux un peu nous dire un petit peu quels sont les intérêts de la France au Mali?
Alors, il y a plusieurs sortes d'intérêts. Je pense qu'il y a des intérêts économiques et des intérêts géostratégiques et des intérêts politiques. Le Mali est le premier producteur de coton d'Afrique de l'Ouest. Et pendant longtemps, il y avait un espèce de monopole d'achat sur le coton qui a été longtemps public, puis... tenu par la France, quoi. Le Mali a beaucoup de mines d'or. C'est célèbre depuis plusieurs siècles. Ces mines d'or, par contre, appartiennent pas forcément à la France, c'est-à-dire que après la chute de Moussa Traoré, les présidents suivants ont essayé de passer des accords avec d'autres multinationales que les multinationales françaises.
Mmh.
Il y a probablement de l'uranium dans la partie nord du Mali, dans le prolongement des filons du Niger.
Ouais, c'est ce qui a été découvert, là.
Et il y a probablement aussi du pétrole dans le filon du pétrole et du gaz...
algérien et libyen.
Voilà. Ça, c'est pour les... Ouais, c'est pour les richesses du sous-sol, quoi, les richesses... En matière première. Si on voit une carte, le Mali, il est complètement enclavé. Ça, c'est le côté négatif pour eux, mais l'envers du décor, c'est que c'est une plaque tournante, un peu.
Mmh.
Entre les deux côtés de l'Afrique. Le Mali a, en Afrique, un poids culturel, je ne sais pas comment dire, beaucoup plus important que son poids économique. Dans les grands empires d'Afrique de l'Ouest, avant qu'il y ait la colonisation, il y a eu l'Empire du Mali qui a été un des plus importants. Et il y a une espèce d'unité culturelle du Mali au Burkina Faso, au sud du Burkina Faso, la Guinée, une petite partie du Sénégal et une petite partie de la Côte d'Ivoire. Et de la Mauritanie aussi. Donc, je pense que ça a aussi un intérêt militaire en soi.
Mmh.
Après, il y avait des tensions importantes entre le gouvernement malien, avant le coup d'État, et l'État français. Je rappelle quand même que le gouvernement malien est quasiment le seul pays dans la région qui a refusé de signer les accords de réexpédition...
Des sans-papiers.
Des sans-papiers.
Ouais.
Et il y avait des tensions assez fortes entre l'État français et le gouvernement malien à ce sujet, et il y avait aussi des tensions liées autour des otages.
Ouais. Ok, mais écoute, on va peut-être faire une pause musicale, là,
ouais.
Et puis après on reprend, ok?
Ok. Thank you.
vous êtes à l'écoute de Grégoire et nous poursuivons un petit peu l'analyse un petit peu de ce qui se passe au Mali avec Sylvie au téléphone. Sylvie, tu nous entends ?
Oui.
Oui, alors, moi ce que je voulais savoir aussi, c'est un peu au niveau religion. Quelles sont les religions ? On se doute bien, d'après ce qu'on sait, bien sûr, tout le monde sait que l'islam, apparemment, ce serait 90%, mais quand on dit l'islam, est-ce que les radicaux islamistes ont tant d'influence que ça, enfin, etc.
Alors, oui, en gros, je crois qu'on dit que 90% des Maliens sont musulmans, mais l'islam implante, ça, c'est pas du tout la même façon de, c'est pas la même pratique sociale de la religion que l'Arabie Saoudite, c'est pas du tout les mêmes habitudes, la même culture. Les gens font leurs 5 prières, le ramadan, leurs ablutions. Dès qu'ils peuvent, ils vont à la Mecque. Ils essayent de suivre ce que dit le Coran dans leur vie. Mais d'abord, tout ça est mélangé de traditions proprement africaines, bonnes ou mauvaises d'ailleurs. Et c'est pas du tout les femmes sortent, les jeunes gens se fréquentent. Si tu te promènes dans Mabako, dans les villes, dans les villages, tu vois pas passer des fantômes voilés. Les femmes sont pas voilées déjà. Éventuellement elles portent un voile quand elles font la prière, mais sinon non. Sauf les femmes du désert, hein, mais dans le désert, tout le monde est voilé. Les femmes, les hommes, il faut se protéger du sable.
Oui, ben. Non, mais Sylvie, ouais, tu disais tout à l'heure qu'il y avait une importance de la culture. Par exemple, la musique qu'on a écoutée, c'était un artiste malien hein, qui s'appelle Sissoko Balaké. Il y a aussi toute une tradition et une grande histoire culturelle du Mali, avec notamment un écrivain hein, qui est bien connu en France, s'appelle Amadou Mfateba, il y a Amadou Mariam et tout ça, etc. Donc il y a des éléments quand même structurants de la culture du Mali, de la culture propre du Mali, qui justement ont rencontré un islam, ou qui font aussi qu'il y a un islam spécifique au Mali, avec évidemment des éléments par rapport aussi à où on se trouve dans le pays. L'islam à Bamako, où il y a 2 millions d'habitants sur les 15 millions du Mali, c'est pas la même chose que l'islam dans le désert ou Ténéré, ou l'islam des Touaregs, c'est évident.
Oui, mais la différence, c'est pas tellement une différence ville-campagne, parce que dans les villages, tu trouves le même truc, hein. La même musique centrale, les mêmes fêtes et tout. C'est vraiment une différence de peuple. C'est grosso modo la majorité des peuples du Mali, c'est effectivement cet islam-là. Dans le désert, chez les Touaregs, je crois pas exactement. Mais dans le Mali, globalement, c'est un islam, mais qui a rien à voir avec le wahhabisme, qui a rien à voir avec les salafistes. Tout chez eux va contre. Les choses se négocient, enfin bon. Enfin, c'est pas, enfin, je sais, rien à voir. Alors, par contre, depuis plusieurs décennies, systématiquement, l'Arabie Saoudite finance des mosquées, construit des mosquées et envoie des imams et forme des imams. Et eux, ils sont wahhabistes, salafistes. Et évidemment, depuis des dizaines d'années que l'Arabie finance des, Saoudite finance des mosquées, finance des fonds de secours, finance des infrastructures, petit à petit, ils ont réussi à implanter un islam un peu différent. Je ne sais pas quelle influence il a dans la population. Ce que je sais, c'est que chaque fois que j'ai été au Mali, j'en ai vu un peu plus. Mais c'est tout à fait minoritaire. Hein. Mais quand même, les premières fois que j'étais au Mali, on n'en voyait pas. On ne voyait pas de femmes tout en noir. Alors que maintenant, on commence à en voir. Et là, on a vraiment une responsabilité aussi des États-Unis. Hein. C'est l'allié des États-Unis qui martèle l'idéologie qui sert ensuite de terreau aux autres.
Bien sûr, oui.
Et ça, c'est vraiment... C'est pas du tout dans la culture malienne. Où il y a un peu... C'est pas rigoriste, quoi. Il y a beaucoup de musique, un peu d'animisme, beaucoup de plaisanterie. beaucoup de sociabilité, mais de sociabilité, comment dire, les maisons, c'est les grandes familles, mais c'est aussi, je sais pas moi, dans la cour d'une maison, dans une journée, il peut passer 50 ou 60 personnes.
Mmh.
Et de sexe. Les gens s'arrêtent, prennent le thé, discutent. Les gens vivent dehors, hein, ils vivent dans les cours. Ou dans la rue devant la porte. Enfin, bon, voilà. Ça n'a rien à voir avec les djihadistes. Rien.
Ouais. Et est-ce que tu crois que, malgré tout, les djihadistes peuvent... Ils peuvent être... Est-ce que tu crois qu'ils... Ce qu'on entend, ce que tu as l'air de dire, c'est que c'est pas possible que les djihadistes puissent recruter au Sud.
Est-ce que... Alors, n'exagérons rien. Parce qu'il faut tenir compte aussi de la pauvreté.
Bien sûr.
Et il faut tenir compte aussi du travail de fond mené par l'Arabie Saoudite depuis des décennies. Au nord, la seule chose qui rapporte de l'argent, c'est les trafics et de bosser comme mercenaire pour protéger les trafics. Ça, c'est au nord. Pour être dans les trafics, il faut être dans les bonnes confréries islamiques, dans les bons clans. On peut pas séparer islamisme et banditisme.
Ouais, d'ailleurs, les trafics, ils sont vachement pas halal, hein, parce que c'est quand même la plupart du temps des trafics de clopes et des trafics de drogue, même, des passages.
Des trafics de clopes, des trafics de drogue, des trafics de main-d'œuvre.
Trafic d'armes.
Oui, et puis du commerce aussi, enfin, du pétrole.
L'essence, ouais.
Ouais. Évidemment, les gens que tu vois riches au nord, c'est que, enfin, on appelait ça des collabos autrefois. Au sud, pour moi, la majorité des gens, ils y sont vraiment réfractaires. Mais il y a des petits groupes, et du fait de l'implantation de l'Arabie Saoudite, et du fait qu'il y a aussi, depuis longtemps, une émigration malienne en Arabie Saoudite. Et quand tu vis quelques années en Arabie Saoudite, ça peut avoir deux effets. Soit ça te dégoûte définitivement de l'islam, soit tu deviens wahhabite. Donc ça fait des points d'appui quand même. La charia n'a pas de pour le moment, ça n'a pas de popularité. Même dans le nord, hein. La population dans le nord refuse d'assister aux sanctions publiques. Dans la charia, quand ils coupent les mains, quand ils donnent les coups de feu, et ça se fait publiquement, les gens ne veulent pas aller voir. Ils ont été obligés de forcer les journalistes à venir filmer arme à la main quasiment, parce que sinon ça se passe devant sur des places désertes.
Ouais.
Personne ne veut aller voir ça. Donc même dans le Nord, il y a des trucs qui heurtent les gens profondément.
Ouais, c'est pour ça d'ailleurs que, bon, d'après ce que l'on sait, mais toi tu dois peut-être en savoir plus, vu que tu es quand même entouré de Maliens, c'est peut-être des Maliens qui sont travailleurs immigrés en France, mais n'empêche que j'ai le sentiment que la majorité accueille d'un bon œil l'intervention française.
Oui, oui, pour eux, l'intervention française les sauve.
Ouais.
Les sauve de la coupe des djihadistes. Ils ont un état en déliquescence complète. Ils peuvent pas faire confiance à leur armée. De toute façon, les autres sont mieux armés. Et donc, pour eux, en plus, le gouvernement est corrompu. Il n'y a plus de pouvoir. Oui, il y a une espèce de partage de gâteau au sommet du pouvoir au Mali. Mais en même temps, c'est un pouvoir sur rien. La CDAO soutient le président, qui s'est déjà fait bastonner par les militaires, qui ont arrêté le premier ministre, en ont mis un autre. Bien sûr, oui, qui voient la France comme un sauveur. Les gens qui voient la France comme un sauveur, c'est pas forcément des gens naïfs. Enfin, ils ont peut-être une certaine naïveté, mais si tu leur dis, mais c'est la France qui est responsable, ils sont d'accord.
Ouais, c'est incroyable, ça. Ouais.
Mais leur problème, c'est Si tu leur dis que si la France n'avait pas fait de conneries en Libye, on n'en serait pas là, ils sont d'accord. Mais si tu leur dis que la France va défendre ses intérêts en premier, ou en tous les cas va défendre ses intérêts, ils sont d'accord. Mais ce qu'ils te répondent, c'est « et alors ?»
Ouais, et alors
Voilà, quoi. Et c'est ce qui est un peu dramatique en même temps. Alors, il y a des illusions hein, aussi. Notamment l'illusion que Hollande, c'est pas Sarko, et que Hollande répare les conneries de Sarko.
Ouais, tu parles, ouais.
Mais voilà, donc faut pas s'imaginer que les gens qui agitent les drapeaux français, c'est des abrutis complets qui ont complètement oublié le passé colonial ou non, c'est pas ça. C'est que ça devenait leur seule c'est devenu leur seule défense.
Ouais, c'est devenu leur seule défense. Mais aussi leur incapacité d'enrayer la situation au niveau, oui. au niveau collectif, quoi. Parce voilà. qu'ils n'ont pas été capables de résister, quoi.
Oui, mais ils se sentent complètement impuissants. Pas armés, les autres sont mieux armés. Dans le Nord, ce qu'ils ont fait les djihadistes aussi en premier, c'est de casser les mausolées, casser les amulettes, casser tout ce qui était protection non armée, si vous comprenez ce que je veux dire.
Ouais.
Auxquels des gens croyaient. Et le Mali, avant toutes ces histoires-là, enfin, l'histoire tout en Touareg, avant l'histoire Touareg, ça, j'ai pas connu, mais avant toutes ces histoires-là, c'était un peu curieux pour moi, un peu une exception. Il n'y avait pas de guerre interethnique. Il y avait une paix entre les peuples. Et en même temps, tu sentais que... les Maliens avaient très peur que les guerres entre peuples qui étaient dans les pays limitrophes les contaminent. Et donc tu sentais un truc où à la fois ils vivent en bande d'entente, à la fois ils ont peur que ça dégénère. Là, je parle même entre... Je parle pas des Touaregs, hein. Et donc pas trop pour que tout le monde ait plein d'armes. Parce que... enfin, tu vois, un peu pour qu'il y ait un état neutre, je sais pas comment dire. Parce que quand même, pendant longtemps, on a bon, si la démocratie, le truc s'est effondré comme ça, c'est que le pouvoir était complètement corrompu, mais en même temps, c'était un peu un îlot de paix. Et dans ce coin-là, la paix.
Oui, quand tu regardes un peu ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ce qui se passe en Mauritanie, ce qui se passe
chez vous, effectivement. Ouais.
Tu y tiens un peu, quoi.
Ouais. Est-ce que tu peux peut-être, parce que bon, il nous reste que 5, 6, 7 minutes,
pas parler du rôle des Américains.
Oui. Ah oui, tiens, le rôle des Américains, ça serait important que tu nous en parles, parce que je crois que au niveau de l'armée, ils ont été là pour les former, soi-disant.
Oui, les Américains sont présents depuis très longtemps au Mali, dans des trucs, un truc que j'ai jamais très bien compris ce que c'était, qui sont les Peace Corps. Mais enfin, c'est des groupes de volontaires américains qui sont là en permanence, qui apprennent les langues des différents peuples, qui sont capables de les enseigner même, hein, qui connaissent toutes les langues qu'il faut, qui se baladent partout dans le Mali. Donc moi, je pense qu'ils font des renseignements, mais... Et ça fait des années qu'ils forment les cadres de l'armée malienne. Donc ils ont formé le capitaine Sanogo qui a fait le coup d'État. Ils ont formé aussi tous les chefs Touareg qui ont quitté l'armée pour rejoindre la rébellion dans le Nord.
Ouais.
Et ils ont, je crois, formé spécifiquement les Touareg. Sans doute dans l'espoir de jouer leur propre jeu. Moi, je pense qu'il y a eu un truc aussi de puissance occidentale qui ont pensé qu'ils pouvaient jouer sur les Touareg, passer un accord avec les Touareg, un peu comme la France a fait en Libye, pour pouvoir ensuite mettre la main sur les richesses du Nord.
Bien sûr, hein.
Et que ça leur a pété à la figure avec les djihadistes.
Un peu comme d'habitude, hein.
Oui, un peu, oui.
Ouais. Bon, quand tu regardes un peu les talibans, par exemple, en Afghanistan...
Voilà, c'est un peu la même histoire qui se répète, mais à l'africaine.
À l'africaine, oui.
Enfin, ou à la saharienne.
Hum.
Sauf qu'il y a un État là-haut qui va pas être d'accord, justement, puisque dans cette redistribution des cartes ou dans cette lutte d'influence, il y a quand même... bon, alors malheureusement, on n'a pas le temps de développer, mais il y a l'Algérie qui va pas forcément accepter que tout se passe sans qu'elle ait son mot à dire. Et on voit bien
alors,
en plus...
Attends. Déjà, l'Algérie a toujours eu son mot à dire dans la région. Hein.
Mmh. Oui, bien sûr.
Pendant longtemps, il y a eu des grands accords de coopération entre le Mali et l'Algérie. Et puis forcément, les Touaregs, ils en discutaient entre eux. Hein. L'Algérie a essayé de jouer son propre jeu. C'est chez elle son jeu diplomatique sur l'intervention de la CEDEAO. Mmh. Effectivement, les chefs ACMI, c'est des Algériens. Il y a la Mauritanie aussi. Hein. Mmh. Parce que d'où ils viennent ceux qui ont attaqué Diabali, apparemment, si j'ai bien suivi, ils sont repliés en Mauritanie, ils sont revenus. Et la Mauritanie, t'inquiète, elle n'a pas fermé ses frontières, elle. Mmh. Ils ont toujours été complices des djihadistes.
Mmh. Et aussi le Nigeria qui doit être...
Alors le Nigeria, il y a effectivement une secte originaire du Nigeria qui est là-bas, mais le Nigeria n'a pas de frontières.
N'a pas de frontières.
J'ai jamais très bien compris. Il y a sûrement une raison, mais je ne sais pas pourquoi ils sont là.
De quoi, Boko Haram, tu parles?
Oui.
Ouais. Ouais. Enfin, en même temps, c'est extrêmement minoritaire parce que là, sur les trucs que j'ai, on parle d'une centaine de personnes,
oui.
C'est ça. Hein, donc, c'est certainement des groupes peut-être qui se déplacent pour faire du prosélytisme, peut-être, ou alors peut-être faire des contacts avec en sardine, ouais, peut-être, je sais pas.
Ouais. Avant de se quitter, ça serait peut-être bien que tu nous dises, même si c'est sous forme de point d'interrogation, où ça va mener cette histoire de l'intervention de la France au Mali.
Où ça va mener, j'en sais rien. C'est sûr que ça va durer longtemps.
Ouais.
Je ne suis pas sûre qu'on puisse complètement assimiler à la situation de l'Irak ou de l'Afghanistan. Parce que l'Irak, on est venu occuper un peuple, un pays.
Ouais.
L'Afghanistan, on est venu occuper un pays. Ce que je veux dire par là, c'est que l'Irak, les Américains et les Occidentaux sont intervenus pour défaire un régime qui était issu du pays. En Afghanistan, ils sont intervenus contre un mouvement, si on peut appeler ça ainsi, qui était issu du pays.
Ouais.
Alors que là, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire qu'il y a les Touaregs, qui sont bien du nord du Mali, mais ACMI, ils ne sont pas maliens.
Mmh.
Et donc, l'arrivée des djihadistes par les maliens, elle est aussi ressentie comme une occupation étrangère.
Mmh.
Au même titre que la France, je ne sais pas, mais... Enfin, c'est pas. Mais ceci dit, je pense que ça va durer longtemps, avec tout ce que ça veut dire en termes de massacres de civils, en termes d'exactions. Évidemment, tout ça ne va que multiplier les exactions. Je pense que tous les. J'imagine. J'ai aucune info dessus, hein. Mais j'imagine que tous les Touaregs qu'ils pouvaient ont quitté Bamako.
Ouais.
Et j'aimerais pas être Touareg à Bamako, tu vois. Il y a des milices qui ont essayé de se former, qui sont formés de gens, de peuples au contact des Touaregs et qui ont l'habitude de morfler de la part des Touaregs et qui peuvent commettre des exactions aussi, ça a déjà exercé dans le passé du Mali. Et après, il y a la question du nord du Mali. Est-ce que la France ne va pas récupérer la région nord?
Ouais. Oui, même s'ils disent
pas
que...
faire un protectorat français, mais faire une espèce de séparation entre le nord et le sud. Et...
Ouais. D'ailleurs, j'étais étonné moi du pouvoir français socialiste là, qu'ils ont bien insisté depuis plusieurs jours. Ils insistent sur le fait qu'on n'a pas pour vocation d'y rester. Bah, quand tu dis ça, généralement, c'est que
tu vas rester, oui.
Tu vas y rester, quand c'est clair. Et bon, c'est vraiment un truc.
Ils n'ont pas pour vocation d'y rester. Moi, je viens, mais. Ils ont dit aussi qu'ils appuyaient l'armée malienne pour reconquérir les villes du Nord. Mmh. J'invite tous vos auditeurs à se précipiter sur une carte d'Afrique. Et ils vont voir l'espace que ça représente.
Oui, c'est énorme. C'est énorme.
Je veux dire...
Avec des gens en plus qui sont rompus là-haut aux méthodes de guérilla et à l'habitude de se déplacer. Donc,
oui,
ça veut dire,
oui,
c'est pas.
Il n'y a qu'à voir même à Diabali, où, qui est un peu leur limite de territoire. Quand ils sont à Diabali, ils sont un peu en territoire inconnu, si tu veux. Ils sont en train de sortir du désert. Bon, mais n'empêche qu'ils ont viré les gens pour prendre leur maison et pour être plus difficile à atteindre. Mmh. Mmh. Donc, ça va durer longtemps. Je ne sais pas du tout, parce que par contre, le point commun avec l'Afghanistan et l'Irak, c'est que ils appuient la même alien, ok, soi-disant. Ils aident le Mali à reconquérir son territoire, ok. Mais quel État malien ?
Oui, c'est ça. Ouais. Celui des putschistes ou celui légitimement issu
de... Alors, celui des putschistes, probablement pas.
Non.
Mais ça veut dire qui est-ce qui va remettre en place des structures d'État malien, mmh. À part la France. Mmh. À moins que le peuple malien ne se réveille pour imposer un certain nombre de choses. Mais si tu veux, ils sont tous... Moi, je connais pas les milieux militants à Bamako, mais si... Dans la population, largement, les gens, ils sont dégoûtés de la politique, dégoûtés des politiciens, dégoûtés des fonctionnaires.
Ouais.
Tous ceux qui tiennent des discours politiques, ils sont considérés comme les tenants uniquement pour récupérer un poste.
Oui, et d'ailleurs, ce qui est vrai.
Oui, c'est souvent vrai. Mais je veux dire, oui, ce qui est souvent vrai, mais par exemple, les textes contre la guerre qu'on voit circuler, nous, sur Internet... Aux yeux de beaucoup de maniens, c'est des textes qui datent d'avant l'intervention française,
ouais.
Bien avant. Et aux yeux de beaucoup de maniens, c'est des gens qui cherchent à récupérer des places auprès de la junte.
Oui. Dont un texte, d'ailleurs, signé par des femmes maliennes,
oui.
Hein, qui date de début décembre, je crois. Hein.
Voilà, du 3 décembre. Après, ouais. Moi, je ne sais pas, je ne connais pas assez pour savoir la part... d'exagération et de vérité. Mais ça veut dire que, de fait, il n'y a pas d'État légitime malien.
Ouais. Écoute, on va être obligé de se quitter, puisque le temps est parti, terminé. Je te, on te remercie. Et puis, je vais te prendre au téléphone tout de suite. Allez, à bientôt.
À bientôt.
Qui reproduise les marques vives seulement en s'unissant pour imposer, pour faire valoir ses propres besoins. On pourra venir à bout d'une logique féroce, d'une logique de la rationalité du capital. La globalisation, le néolibéralisme, c'est la forme actuelle et en perspective de la domination du système du capital, de la rationalité économique et de la rationalité de l'État. Alors nous, on le considère ni fatale, pas du tout. On ne la considère pas fatale. Il y a une petite métaphore qu'on pourrait dire aux enfants. Le vampire, il semble très fort, mais il ne peut pas se passer des gens qui vampirisent. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampires.
Moi, je vous propose de vous retirer maintenant, messieurs de la police. Vous voulez bien vous écarter et vous mettre sur le côté. Nous allons rentrer puisque personne ne nous en empêche.
Je propose que paisiblement nous entrions et vous retirez sur le côté gentiment.
Monsieur,
comme ça il n'y aura pas de violence, en tout cas pas de
inconvénient. J'attends les ordres.
Allez, bonsoir. C'était donc les Grégoires chaque semaine sur les collègues Garrigue Montpellier, Canal Sud à Toulouse, Radio Primitive sur Reims. Les Grégoires, une parole anarchiste communiste que vous pouvez retrouver sur OC Libertaire, sur le site OC Libertaire et puis aussi sur le blog Le Chat Noir 51.